Radio Kapi. Oh, Kapi.
Les titres de ce journal, c'est ce dimanche 18 février que se clôture à Addis Abeba le 37e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, relève différents aspects des crises qui rongent les continents noirs, tout en mettant en garde contre la perte de la crédibilité de l'organisation continentale. En Ituri, 4 personnes, dont une femme enceinte et son enfant, sont tombées et mortes dans un puits abandonné dans le territoire de Djougou. La société civile locale dénonce la léthargie des services spécialisés d'obliger aux orpailleurs à remblayer ces puits après l'exploitation de l'or. Nous recevons dans cette édition Vicar Batwindi Angui, coordinateur national des foyers de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse. Il nous parle de la pression économique que subit la population de Goma et ses environs suite à l'activisme de groupes armés. Patience Ngalula à la présentation. Bonjour à tous. Ce journal part d'Addis Abeba où se clôture ce dimanche 18 février le 37e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine sous les thèmes « Éduquer un Africain adapté au 21e siècle ». À l'ouverture de ces assises, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a peint un tableau peu reluisant de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans les continents. Moussa Faki s'est dit préoccupé par l'aggravation de la crise dans l'est de la RDC. Au cours de cette séance d'ouverture, le président Azali Assoumani a cédé son fauteuil de présidence annuelle tournante à son homologue de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. D'autres précisions avec vous, Blaise Makassi.
Dans son discours d'ouverture, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, note que les Grands Lacs multiplient des signes d'aggravation de leur crise, nourris des problématiques irrésolues dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Afrique ne saurait baisser les bras et ne pas s'atteler à la promotion d'une vraie paix dans cette région, a-t-il insisté. Moussa Faki a peint un tableau peu reluisant de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans les continents et a mis en garde contre la perte de la crédibilité de l'organisation continentale. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, la paix, l'instabilité politique et institutionnelle, les changements climatiques, les déficits en matière de gouvernance économique, l'intégration, la pauvreté et la marginalisation des femmes et des jeunes dans le processus de développement et des leaderships dans les systèmes politiques et sociaux demeurent les principales sources des préoccupations de l'Union africaine. Invité spécial du 37e sommet de l'UIA, le président du Brésil, Lula da Silva, a plaidé pour un partenariat stratégique privilégié avec la Afrique. Plus de 60% des Brésiliens se considèrent comme afrodescendants, a-t-il conclu.
Je le disais au sommaire, en Ituri, 4 personnes sont tombées cette semaine dans un puits abandonné et sont mortes à la périphérie de la commune rurale de Mongwalou, dans les territoires de Djougou. Face à ces drames, la société civile locale alerte les gouvernements sur l'existence de plus de 1000 trous dans la zone qui constituent un danger permanent pour la population. Cette structure dénonce la léthargie des services spécialisés pour faire respecter les codes miniers qui obligent les orpailleurs à couvrir ces puits après l'exploitation de l'or. Isaac Remoyopi.
Parmi les personnes qui sont mortes dans les puits d'or abandonnés, il y a une femme enceinte et son enfant qui se rendait à la toilette proche de leur habitation. Ils ont glissé et se sont noyés dans les trous remplis d'eau. Un voisin venu à leur rescousse a lui aussi trébuché et tous sont morts sur place. Selon la société civile de Mongwalou, ces accidents sont fréquents dans la zone minière qui compte plus de 1000 puits d'or abandonnés, notamment dans les localités de Kanga, Njebi, Poipo, Longwe et Bassa. Ces trous de 15 à 30 mètres de profondeur et qui sont généralement proches des habitations sont couverts des herbes et remplis d'eau qui jaillissent de la terre. Un acteur de la société civile précise que ces puits constituent un danger permanent pour les riverains qui se rendent au champ ou fuient les atrocités des groupes armés qui sont actifs dans ces milieux. Il demande au gouvernement de faire respecter les codes miniers qui exigent aux exploitants de remettre la terre dans ces trous après avoir extrait des minéraux. Bébé Anecho.
Il y a beaucoup de trous, surtout dans les cités, dans les communes, comme à quartier Kilomoto Vert, Kanga, Poipo, qui sont à ciel ouvert en tout moment, peut causer beaucoup de morts là-bas. Il y a aussi d'autres morts dont on ne dénonce pas, comme à Kanga Mavi, à Pangba, alors que les services de mine avec les SESCAM, ils peuvent accadrer les orpailleurs pour rembrayer les trous.
Nous n'avons pas encore la réaction des services des mines et des autorités locales à ce sujet. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour parler des miliciens de la CODECO et du groupe d'autodéfense qui ont été sensibilisés à la paix et à la cohésion sociale dans les territoires de Djougou. C'est dans le cadre des campagnes lancées depuis vendredi à Lida par le chef coutumier des entités Lendu et Emma avec l'appui de la MONUSCO. Selon ces derniers, l'objectif de cette démarche est de consolider la paix relative observée dans cette entité. Le gouvernement provincial a remis plus de 1000 ou à certains jeunes au cours de cette première journée pour la relance des activités agricoles. Un reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Grâce Anzati.
De nombreux jeunes des communautés locales qui avaient pris les armes contre la République ont pris part à cette séance de sensibilisation initiée par les chefs coutumiers des territoires des Djougou avec l'appui du gouvernement et de la MONUSCO. Ils sont venus des différentes localités dont Daouda, Kogpa, Djiti, dans les entités Lendu et Deja, Nglé, Lona, Lodzikpa, dans les secteurs des Baema. Ces jeunes se sont engagés à ne plus commettre des violences contre les membres des deux communautés et à laisser le libre passage de la population, déclarent les chefs coutumiers. Ces hommes armés se disent également prêts à déposer les armes et reprendre leurs activités professionnelles avant de s'enrôler dans ces milices. Pour matérialiser cet engagement, le gouvernement provincial leur a remis 1000 ou pour la relance des activités agricoles. Selon les autorités coutumières, cette campagne de sensibilisation est initiée dans le but de consolider la paix relative caractérisée par la baisse des violences depuis le dernier trimestre de l'année 2023 dans les territoires des Djougou, et d'ajouter que cette campagne va se poursuivre dans d'autres entités en vue d'atteindre tous les jeunes qui avaient intégré les groupes armés et qui ont pris conscience des conséquences de la guerre qui persiste depuis environ 5 ans dans cette province.
Entre-temps, en territoire de Fizi, au sud Kivu, plus de 60% de la population du village de Tudjenge, dans le groupement Basimukunje, secteur de Mutambala, qui avait fui les hostilités survenues au mois de décembre dernier, ne sont pas encore retournés dans leur village. Au cours d'une mission conjointe d'évaluation de la MONUSCO qui s'est rendue sur place à 17 km à l'ouest de la ville de Baraka, l'administrateur du territoire de Fizi a fait les constats d'un retour progressif des habitants dans ces villages. Fistan Goma Mayabala.
Ils ont été près d'une centaine de personnes à prendre part ce vendredi à l'inauguration d'un marché construit dans le cadre de la réduction des violences communautaires à Tudjenge. La plupart proviennent fraîchement de Kafulo, Malisha, de Katanga et de la ville de Baraka. Ce marché est le seul lieu, symbole de rapprochement entre les habitants issus des différentes communautés se trouvant sur la route entre Baraka et le moyen plateau de Bibokoboko. L'administrateur de Fizi, Sami Badibanga, sur place à Tudjenge, a exhorté la population au vivre ensemble.
La construction de ces marché de Tudjenge, c'est pour nous une liesse du fait que c'est un marché qui doit non seulement permettre à la population de faire les achats ou de vendre le marchandise, mais c'est aussi un lieu de rencontre culturelle, un lieu de cohésion sociale avec les différentes communautés. Les Bafuliru, les Banyamulenge, les Babembe, les Bashi, les Banyindu, les Bareka doivent développer quand même un climat de paix.
Chaque lundi, des produits de première nécessité, des produits manufacturés en provenance des Baraka ainsi que les produits laitiers et la viande des bœufs en provenance de Bibokoboko sont échangés ici les jours du marché. Les habitants ont salué le projet des moulins de manioc dans leur milieu et les trois hangars construits pour abriter les marchands. La MONUSCO Uvira a financé ce projet à hauteur de 100 000 $ américains à travers sa section DD3R. Depuis Baraka, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
À Goma, la société civile urbaine plaide auprès du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, de repousser la mesure d'interdiction de la circulation des motos à 22h locales plutôt qu'à 18h comme initialement décidé. Pour son président, au lieu d'endiguer l'insécurité dans la ville, cette mesure favorise plutôt une tracasserie sans pareil de la part des éléments de police nationale congolaise qui traquent les taximens motos à partir des 17h heure locale. Marion Ngavo pense que ça devient un calvaire dans la ville de Goma sur les plans socio-économiques de la population. Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, est au micro de Bernardine Djambou.
La société civile de la ville de Goma s'inquiète toujours de la mesure de non-circulation des motos à Goma à partir de 18h. Parce que la police tracasse les motards à partir même de 17h. Les populations sont inquiétées dans les avenues avec les patrouilleurs qui les ravissent, argent, téléphone et autre chose. Nous disons que c'est parmi les mesures qui peuvent nous donner la sécurité. Mais elles ne sont pas le bienvenu aujourd'hui parce que il y a 15 jours, nous avons assisté à des assassinats. Par exemple, dans le quartier Mugunga, on a tué un policier de Gémi. Dans le quartier Bujovu, on a tué un garçon qui travaillait au salon. C'était tard, la nuit, vers minuit, 1h. Donc nous disons l'insécurité, ce n'est pas seulement entre 18h et 20h. Nous pensons que la population vit du jour au lendemain. Il n'y a pas un transport en commun facile pour toute la population de la ville de Goma. Nous demandons que le gouverneur puisse, en ce jour, ramener la mesure à 22h.
Autre nouvelle, 18e anniversaire de la constitution de la RDC, c'est ce dimanche 18 février. Ici à Kinshasa, Julien Paluku, expert en décentralisation et doctorant en sciences politiques et administratives à l'Université de Kinshasa, estime qu'il y a des monstres créés par la constitution qui empêchent la décentralisation d'être les moteurs du développement. Selon lui, les premiers monstres s'appellent les télescopages administratifs. Il l'a dit lors de la conférence débat organisée par l'Université de Kinshasa au Palais du Peuple. Il propose ainsi la révision constitutionnelle. Julien Paluku le dit à Paul Matendo.
Les premiers monstres, c'est les télescopages administratifs ou financiers. Lorsque vous voyez l'article 3 de la Constitution, elle crée les entités territoriales décentralisées que sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. C'est donc un télescopage administratif inutile et une redondance. Et la conséquence, c'est que le pouvoir central a des taxes, la province a des taxes, la ville a des taxes, la commune a des taxes. Ça fait 4 niveaux de taxation sur les mêmes contribuables. Mais 18 ans après, cette conciliatrice se marie avec quelle fille? Parce qu'elle est majeure. Moi, je pense que la fille avec laquelle elle doit se marier doit s'appeler désormais révision constitutionnelle.
Et puis, quelques jours après l'incendie ayant réduit à néant une quinzaine d'ateliers de menuiserie à Boutembo, la protection civile de cette ville appelle la population à développer un comportement responsable impliquant la gestion anticipative des risques. Elle leur recommande aussi d'acquérir des extincteurs d'incendie, surtout que la ville ne dispose pas d'un véhicule anti-incendie. Elle lance par ailleurs un appel aux gens de bonne volonté pour relever les défis d'acquisition d'un véhicule anti-incendie. César Matoumo, coordonnateur urbain de la protection civile à Boutembo, invite la communauté à prendre conscience de la menace d'incendie qui provoque souvent d'énormes pertes. Ses propos sont sélectionnés par Blaise Makassi.
Ce qu'il faut savoir en matière d'incendie, c'est que la première personne qui a la responsabilité de protéger l'immeuble, de protéger le ménage, de protéger l'atelier, c'est le propriétaire même qui doit avoir un comportement responsable. Ce comportement responsable revient à jouer à la prudence. Le deuxième niveau du comportement responsable, le propriétaire de l'immeuble doit posséder les matériels d'extinction. On doit avoir des extincteurs d'incendie au niveau de l'immeuble, au niveau des ateliers de menuiserie et partout ailleurs. Parce que quand le feu commence, le feu commence toujours au premier degré. Même si au stade actuel, la protection civile, la ville de Boutembo, n'est-ce pas, n'a pas de camions anti-incendie, mais il y a lieu, n'est-ce pas, de maîtriser l'incendie quand il commence. C'est au second degré où le camion anti-incendie a sa place. Et la ville, jusqu'à présent, n'a pas de camions anti-incendie, ce qui est déplorable. La communauté devra adopter un comportement responsable parce qu'à tout moment qu'il y a incendie, la cause a toujours été l'imprudence.
Parlons à présent de cette crise d'eau en Mbujimayi au Kasaï oriental. L'eau potable devient une denrée rare ces derniers temps en Mbujimayi. Aucun quartier n'est épargné par cette crise d'eau. La régie des eaux qui alimente une grande partie de la ville connaît également une panne sur ses machines au niveau de Lukelenge. Des explications avec Esther Ndalafina.
L'eau potable ne coule pas dans plusieurs quartiers de Mbujimayi depuis le début de la semaine. Les quartiers les plus touchés sont ceux alimentés par la régie des eaux. Les femmes ménagères, les jeunes filles et garçons ainsi que les vendeurs d'eau par vélo sont visibles dans plusieurs artères de la ville à la recherche de l'eau potable.
Depuis 5 heures, nous sommes réveillés avec les enfants. On vient de retourner bientôt là à la maison. En tout cas, c'est très dur et très difficile.
Il n'y a pas d'eau depuis 3 jours. Il n'y a rien.
Nous sommes dans la rue en train de chercher l'eau. Souvent, nous quittons des catombaves en train de chercher de l'eau.
Au niveau de la régie des eaux, on parle d'une panne survenue la semaine dernière sur un groupe motopompe à Lukelenge. Didier Mboudilelo, directeur provincial.
Maintenant, là, à Bakonga Panga, j'ai 9 nouveaux groupes motopompes, mais qui ne tournent pas. Pas suffisamment d'eau, pas d'énergie. Ce jour-ci, c'est perturbé à cause de la panne d'un groupe motopompe à Lukelenge.
Signalons que depuis le début de cette crise d'eau, le bidon de 20 litres d'eau potable qui coûtait 200 francs se négocie actuellement à 1000 francs congolais auprès des vendeurs d'eau par vélo. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Égypte, le Caire a été le théâtre d'un événement de solidarité exceptionnel vendredi dernier alors que près de 10 000 coureurs ont pris part au marathon Run for Gaza. Toutes les recettes des ventes des billets pour cet événement ont été dédiées à l'acheminement d'une aide humanitaire d'urgence à la population vivant dans la bande de Gaza, région ravagée par les conflits. Des coureurs représentant pas moins de 30 pays différents se sont joints à cet acte de solidarité.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition Vicar Batwindi Hangi. Il est coordinateur national des foyers de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse. Il nous parle de la pression économique qu'est subie la population de Goma et ses environs à la suite des affrontements et qui bloque toutes les voies des approvisionnements. Ainsi, la crise s'accentue au quotidien. Il s'entretient avec Sifa Maguro.
Monsieur Vicar Batwindi, bonjour.
Bonjour Sifa Maguro.
Vous avez alerté, plaidé auprès des autorités par rapport à la situation économique que connaît la ville de Goma depuis un temps, l'asphyxie, la pression économique à laquelle se retrouve la population de Goma et ses environs, due aux affrontements, la situation sécuritaire. Pourquoi vous avez voulu attirer l'attention des autorités?
Oui, en fait, la population de Goma traverse une situation périlleuse. Parce que depuis un temps, ça fait de cela, d'ailleurs pour l'axe Rutshuru, ça fait pratiquement plus de 2 ans que la route est fermée. On ne peut pas la fréquenter comme d'habitude. Et à cela, il faut ajouter la route sur l'axe Kichanga, axe Massi-Centre et l'axe bord du lac.
Minova.
Donc, nous restons avec l'unique voie, c'est la voie lacustre. Et là, il faut rappeler que Bukavu dépasse aussi de Goma sur le plan sécurité alimentaire. Alors, la ville de Goma, elle est étouffée, si pas asphyxiée, par le fait qu'elle vient d'accueillir toute la population des villages proches de Goma, donc Sake, Chacha et consorts. Et là, nous avons reçu des alertes de la population qui s'est rendue au marché, notamment de Kituku, et qui, selon elle, ils ont constaté pas seulement la diminution, si pas la rareté des denrées alimentaires, mais aussi la montée à flèche des prix, parce qu'il y a des taxes perçues par plusieurs taxateurs et les vendeurs et revendeurs sont obligés aussi d'augmenter les prix, parce qu'il ne faut pas perdre. Alors, notre cri de détresse, c'est de demander aux autorités de voir, dans la mesure du possible, accorder une faveur fiscale en suspendant la taxation des denrées alimentaires, j'insiste, pour que lorsque les vendeurs et les revendeurs ne vont plus payer la taxe à leur niveau, il faut diminuer les prix. Et même l'autorité peut dire, pour tel produit, pour tel denrée alimentaire, voici le prix à ne pas dépasser. Donc, l'autorité aura le pouvoir de déterminer les prix et c'est une mesure qui va atténuer la souffrance de la population. À part ça, il y a d'autres mauvaises pratiques sur lesquelles on nous a alertés, c'est la tracasserie routière. Pendant cette période, les agents de PCR devaient compatir, c'est-à-dire la police de circulation routière, devaient compatir avec la population qui s'occupe seulement de la prévention des accidents de circulation routière, mais aussi peut-être des contrôles parce que nous sommes dans une ville où beaucoup de peut-être d'infiltrés, ils peuvent se limiter seulement à la prévention et au contrôle et éviter de traumatiser davantage une population qui est déjà sous psychose. Donc c'est aussi un autre aspect de plaidoyer. Mais dans la même note, nous sommes dit la situation ne doit pas prendre tout ce temps. il serait mieux de traquer l'ennemi en organisant des affrontements dans tous les axes au même moment. Et comme ça, on va couper d'abord la chaîne d'approvisionnement de l'ennemi, mais aussi les renforts n'aura pas la possibilité d'atteindre Mouchaki et consorts.
Et quand vous parlez des allègements fiscaux, est-ce que vous pensez que c'est seulement les voies qui donnent directement à Goma ou ça concerne aussi d'autres parties comme Kanyabayonga, Kibirizi, partout là-bas? Nous avons appris qu'il y a eu grève aussi des camionneurs, des transporteurs qui amènent des produits agricoles et qui étaient soumis à des taxes. Ils ont carrément refusé de continuer, sans compter les barrières des groupes armés, des rebelles, où ils doivent payer.
Normalement, ça doit concerner toute la province et peut-être, pour moi, on peut même l'élargir au secteur des pétroliers. Parce que lorsque les carburants coûtent cher, parce qu'on les a demandé une taxe exorbitante, ça va jouer sur les prix des transports des denrées alimentaires. Quand le prix des transports est cher, les vendeurs et revendeurs vont aussi augmenter les prix. Donc, il revient à l'autorité de développer des mécanismes d'atténuation de la souffrance de la population pour voir si, pendant cet état d'asphyxie de la ville, est-ce que au moins la population peut respirer un peu sur les plats alimentaires. Parce que nous n'avons pas seulement aujourd'hui l'insécurité liée à la guerre, nous avons aussi l'insécurité alimentaire qui est entrée.
Parce que les gens ne cultivent plus.
C'est ça. Donc, les gens ne cultivent pas et nous dépendons maintenant totalement de l'extérieur. Il y a même nos maïs qui sont produits à Rutshuru et qui passent dans les pays voisins. Et en les amenant ici, c'est comme si ça vient de l'extérieur.
Ça nous revient.
Alors que ça vient sur notre propre terre. C'est inacceptable. Et les autorités doivent vraiment y accorder crédit.
Merci beaucoup, Monsieur Vicard.
Je vous en prie, madame.
Et c'est par ici que je clôture cette session d'actualité. Madame, Messieurs, Polydor Basunga, la mise en onde sous la supervision de Jacques-Yves Molima, à la présentation, Patience Ngalula. Aimable auditeur, merci de votre attention.